Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Laloïse Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Valentin Boulier. Valentin est avocat au barreau de Paris. Depuis 2015, il est collaborateur au sein du cabinet Jacob Avocat, dans lequel il intervient plus particulièrement en matière de protection des données personnelles. Valentin m'a été recommandé par son stagiaire, Étienne Bûcher, qui sera bientôt avocat à son tour, et je l'en remercie. Je remercie également Harry Comics pour son super avis sur Apple Podcasts, qui me touche beaucoup. Vous aussi, pensez à laisser un avis sur Apple Podcasts pour faire connaître le podcast. Et aussi, pourquoi pas, je vous y invite fortement à contribuer à la campagne de crowdfunding Fleur d'Avocat qui a lieu actuellement. Fleur d'Avocat, comme vous le savez, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi des formations. Et en ce moment, je fais une campagne de crowdfunding pour financer le passage au digital des formations, qui est donc, mon pivot, mon évolution de cette période de coronavirus et de ce confinement. L'objectif de la campagne est atteint à hauteur de 40% déjà, donc je suis très contente de ce soutien que j'ai reçu pour ces 10 premiers jours de campagne, un petit peu plus maintenant. Pour atteindre mon objectif, j'ai quand même besoin de votre mobilisation à tous, vous qui écoutez le podcast. Les 7 derniers jours, vous étiez plus de 3000. Et donc, globalement, si ne serait-ce que la moitié d'entre vous donnait 10 euros, si chacun d'entre vous vous donnait 5 euros, la cagnotte est pliée. Donc vraiment, si vous aimez le podcast, si vous aimez mon travail avec Fleur d'Avocat, vous qui m'écoutez, vous que j'inspire et à qui j'apporte, je pense, pas mal, rendez-moi l'ascenseur en contribuant à mes projets. Ça me touche, ça me porte et ça m'aidera à continuer à travailler avec ferveur pour Fleur d'Avocat. Le lien vers la campagne est en note de l'épisode. Je vous laisse donc avec Valentin et moi-même pour cet échange et vous dis à la semaine prochaine. Bonne écoute. Bonjour Valentin Boulier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bienvenue sur Fleur d'Avocat.
Merci, c'est gentil.
Alors Valentin, raconte-moi comment et surtout pourquoi tu es devenu avocat.
Alors c'est une histoire assez courte qui est basée sur la mauvaise volonté dont j'avais fait preuve au lycée en fait. C'est-à-dire que j'ai connu une période où je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ça m'a un peu coulé au bac français. Et il y a eu une sorte de déclic parce que je me suis dit finalement avec cette mauvaise volonté, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire en premier lieu, c'est-à-dire que je voulais faire des études d'histoire. Et voilà, ma mère qui était institutrice m'a dit, tu sais prof, c'est compliqué, c'est pas le métier dont tu rêves. Et je me suis dit bon, si je veux faire de l'histoire, il faut pas que je vise prof, même si j'aurais aimé quand même un peu. Donc j'ai voulu viser l'École nationale des chartes pour être archiviste. Et quand j'ai regardé les annales du concours, je me suis dit, t'es pas prêt du tout. Tu lis pas assez de livres d'histoire, t'es pas prêt, ça va te couler. Et donc, mon frère qui s'est beaucoup occupé de mon instruction, on va dire, m'a dit, essaye à Sciences Po. On verra bien. Quand on ne travaille pas, on n'a pas beaucoup de résultats. Je m'en suis vite aperçu, j'ai passé le concours de Sciences Po. Alors je crois que c'était Lille à l'époque, et je l'ai raté. Et là je me suis dit, bon, maintenant va peut-être falloir se mettre à travailler.
Donc
à trouver
quelque
chose.
Donc un peu dur quand même le lycée, la période première.
Pas tellement,
terminale.
Parce que rétrospectivement c'était dur, mais sur le moment en fait je faisais preuve d'une telle mauvaise volonté qu'en fait... ma vie ne m'intéressait pas, en fait. Ma carrière ne m'intéressait pas. Je m'étais jamais posé la question. J'ai toujours été dans un milieu, on va dire, extrêmement protégé, où j'ai connu peu d'échecs à cette période, en fait. J'avais mes années comme ça, sans trop travailler. Je lisais pas, mais j'avais de bonnes notes, j'avais de bonnes relations avec les profs. Et finalement, j'étais un peu à volo, en fait. J'allais, mais je savais pas vraiment où j'allais. Et mon frère m'a dit, pourquoi pas avocat? Et à cette époque, en terminale, j'avais tous les a priori possibles sur le métier d'avocat, mais on défend des gens qui font des choses pas bien, enfin que du discours de bas étage finalement. Et je me suis dit, bon, bah essaye maintenant.
Donc confiance absolue en ton grand frère, si je comprends
bien. Mais complètement, ouais. Complètement. Alors mes parents ont toujours été derrière moi, ma mère me faisait réviser le français, le latin, puisqu'à l'époque moi je faisais du latin, et mon frère s'occupait de tout ce qui était scientifique. Donc tout ce qui était maths, physique, chimie, bah, c'est lui en fait qui m'a poussé.
Et paradoxalement, il t'envoie en droit.
voilà, parce qu'il m'a dit, toi les maths... bon, vous voyez que j'avais un rejet absolu des maths. J'ai jamais eu de mauvaises notes en maths, sauf au collège où mon frère m'a repris en main et m'a dit, bah maintenant c'est moi qui vais te donner les notions. Mais voilà, c'était un rejet. Donc j'avais 14-15 de moyenne, mais c'était un rejet, j'aimais pas ça du tout. Mmh. Contrairement à l'histoire où j'avais 18-19 et où là c'était la passion totale. Pas suffisamment, mais bon. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire droit. Puis bon, la première année se passe. Elle se passe normalement, hein, aucun échec. Deuxième année se passe. À un moment, il faut penser un peu à sa carrière.
Ça me plaisait quand même.
Ça me plaisait, oui. Surtout l'histoire du droit.
Sans blague.
Voilà, c'était l'histoire du droit. Moi, les ordonnances royales, voilà, j'en avais fait plein. Les bulles papales, ça me plaisait. Bon, j'étais le seul, mais ça me plaisait quand même. Et troisième année... Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En fait, on avait des cours en option. Et là, j'ai choisi un cours sur l'histoire. Histoire des pensées politiques avant 1789 à la faculté d'Aix-en-Provence. Et le prof faisait son cours où là, ça a été un vrai déclic. Je me souviens de ces après-midi dans l'amphithéâtre Boulan d'Aix-en-Provence. C'était un amphithéâtre extrêmement inconfortable. Enfin, on était sur des planches en bois, quoi. Enfin, des chaises repliables en bois, extrêmement inconfortables. Et j'écoutais ce prof parler et là j'ai commencé à vraiment lire, à vraiment m'y mettre et à ben en fait tous les livres sur le contrat social, je les ai lus. Donc j'ai pu lire Hobbes, tout ce qui était Léviathan, Montesquieu, Spinoza, Platon, même des autres auteurs, par exemple Polybe ou bon voilà. Et là ça a vraiment été le déclic et je me suis dit ah ben voilà. Puis ensuite, j'ai continué.
Mais du coup, c'est un déclic vers quoi quand on a pour le contrat social
général,
dans l'histoire du droit et de la pensée politique enfin, c'est, tu vois, ça mène à quoi ce déclic?
Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la société et à quel point l'avocat était un des piliers de cette société. Et ça, avant, en fait, on ne nous le dit pas. On voit les avocats à la télé qui défendent des gens qui n'ont pas fait des choses bien, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi ils défendent ces gens. Et quand on leur pose la question, c'est toujours la passion qui l'emporte, donc la passion sans argument en général. C'est toujours, oui, mais comment vous faites pour défendre tel criminel? Et finalement, on ne réfléchit jamais sur la place de l'avocat dans la société. Et petit à petit, en lisant ces livres sur le contrat social, on s'aperçoit que bah, il se passe ci, il se passe ça, que quand il y a un pouvoir, il y a forcément des contre-pouvoirs, et que l'avocat, il trouve toute sa place. Et ensuite, petit à petit, en fait, je ne me suis pas dit d'un coup, tiens, je vais devenir avocat. Et là, c'est encore mon frère qui m'a dit, maintenant que tu es rentré à la fac, tu vas en sortir. Et pour sortir de la fac de droit, voilà les métiers qui t'offrent à toi. Tu peux être magistrat. Je dis, ah non, j'angoisse trop. J'arriverai pas à juger, en fait, forcément. Et il me dit, avocat. Je me suis dit, bon...
C'est fou parce que ça reste cette vision assez fermée de ce qu'on peut faire après des études de droit. Enfin, c'est un autre débat, mais c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, on entre dans la fac de droit avec les discours de le droit mène à tout. Et on sur le point de sortir des études de droit, on retrouve cette espèce de truc. Bon, bah ok, donc il y a magistrat, avocat.
Alors, pas forcément. En fait, c'était avocat pour avoir le diplôme, en quelque sorte, pour avoir un bagage. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux comme métier, je m'y opposerai jamais. Je te mettrai en garde, ça oui, bon, ça c'est son rôle de mère. Mais par contre, il te faut un diplôme. Il te faut quelque chose, un diplôme qui te permette de faire ce que tu veux ensuite, en fait. Donc si par exemple, il y a plein de métiers où finalement on a un diplôme pour faire ce métier. Et avocat, c'est totalement différent parce qu'on nous apprend à réfléchir, à construire une pensée, et donc on peut être juriste d'entreprise, etc. Donc moi, justice, en fait, ce qu'il me fallait pour sortir de la fac, c'était un bagage qui me permette ensuite de faire ce que je voulais. Et mon premier maître de stage, sa fille avait fait pareil, elle est devenue musicienne, elle est musicienne, mais il lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais d'abord tu passes ton kappa. Elle l'a fait, et une fois qu'elle a eu le kappa, elle est devenue musicienne. Et ça marche bien pour elle, en tout cas j'espère. Et là, c'est un peu pareil. Je me suis dit, il me faut une sorte de clé, en fait, qui m'ouvrirait toutes les portes. Bon, c'est totalement idéaliste comme idée, mais bon, c'est comme ça.
En tout cas, ça en ouvre.
Voilà. Et donc, j'ai passé le concours.
Est-ce que tu avais fait un stage...
À l'examen, d'ailleurs.
Ouais. Est-ce que tu avais fait un stage avant de passer le CRFPA ou est-ce que tes premiers stages, tu les as fait dans le cadre de l'école ?
Alors non, j'avais fait un premier stage en première année. C'était un avocat qu'on connaissait à Aix-en-Provence. Donc, il m'avait dit, bah, OK, pour 3 semaines ou 1 mois, je ne sais plus combien c'était. Et donc, voilà, je faisais des choses en droit commercial, en droit pénal, en droit civil. Donc, c'était intéressant. J'ai fait un super stage. Il m'apprenait beaucoup de choses. Il m'emmenait avec lui. Mais il n'y a pas eu l'espèce d'envie, en quelque sorte. Qui nous fait aimer notre métier. Mm. Le deuxième stage, je l'ai refait chez lui. Et là, c'était... voilà, il me dit, bon, maintenant, t'es grand, donc on va faire des choses d'adultes, quoi. Et là, poum, j'ai eu des gros dossiers qui me faisaient plus confiance. Ensuite, pour mon premier M2, j'étais au cabinet Bennec.
Qui est un cabinet à Aix-en-Provence aussi ?
Non, c'était à Paris. C'était la première fois que j'allais travailler à Paris, parce que j'y avais été déjà en tant que touriste, mais... Voilà, pour y travailler, c'était ma première fois. Et là, c'était la propriété intellectuelle. Donc, mon M2, c'était propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Et là, ça m'a plu.
En fait, comment est-ce que tu t'es orienté vers la propriété intellectuelle ? C'est un cours qui t'a plu
Bah là, c'est encore à cause, entre guillemets, de mon frère, en fait, parce que lui, il est très axé nouvelles
technologies. C'est ton frère que j'aurais dû interviewer.
Voilà, en fait, il a une influence, mais en fait, on s'entend tellement bien qu'il y a forcément une grosse influence. Et chaque fois, je lui ai fait confiance, en fait. Et à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Il n'y a jamais eu le piège ou quoi. À chaque fois, il m'a dit, oh, regarde, si tu fais ça, tu pourras aller là ou là, tu feras ce que tu veux. Et à chaque fois, en fait, je me suis laissé guider. Comme je suis le cadet, je me suis laissé guider et sans aucune déception. Et donc il me dit, donc lui il est très dans les ordinateurs. On avait été parmi les premiers à être accordés à Internet, donc tout ce qui était web. Enfin parmi les premiers lorsque ça s'est vraiment développé de manière massive. Et ça m'intéressait. À chaque fois on se disait mais comment ça marche derrière en fait ? Comment on accède à ces informations ? Quels sont les tuyaux ? Quelles sont les infrastructures physiques ? Qui font que ça marche. Et là, ça continue ensuite, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais faire des nouvelles technologies. Propriété intellectuelle, je me suis dit, je vais tout faire en même temps. En général, c'est toujours lié, même si ça devrait être séparé. Et donc, j'ai continué. Donc, j'étais au cabinet Bennec. Donc, j'ai fait un peu de brevet. Donc là, bon, c'était pas ma tasse de thé, mais par contre, c'est tellement rigoureux que ça apprend vraiment... une pensée logique, enfin une logique à appliquer. Mmh. Et là, j'ai été formé par Frédéric Bennec, Alexandre Jacquet, Virginie Lehoux, voilà, qui transmettent leur passion véritablement. Ce qui donne la force de continuer, de voir beaucoup plus loin. Et ensuite, fin de ce M2, fin de ce stage, je retourne à Aix-en-Provence et je passe l'examen. Je me suis dit, je veux pas le rater. Donc j'ai pris une année complète. Alors sans prépa, j'ai pris une année complète où j'ai... Au début, j'ai travaillé avec des gros guillemets. Hein. Bon, c'est la fac. J'étais à l'IEJ, j'avais pas trop de coups de pied au derrière, en gros. Et en mars, je vois mon frère, il me dit, tu révises mal, en fait. Tu l'auras pas. Donc, il me dit, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes les annales et tu vas toutes les faire. Bon, on me dit ça, moi, je me dis, non, j'ai pas trop envie. Mais en fait, si je l'avais pas fait, je l'aurais pas eu. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Je me souviens de mes après-midi en vacances où je faisais des notes de synthèse, où je les rédigeais. Je m'enfermais pendant 5 heures et je faisais la note de synthèse. Ouais. Et souvent, mon frère me corrigeait. Il me disait, c'est pas logique. Parce qu'il a pas une formation de juriste, mais il a la pensée d'un juriste. Et chaque fois qu'il y a une incohérence dans le propos, lui, il va la détecter tout de suite. Et c'est comme ça. Et ensuite, je suis arrivé à l'examen, je pensais pas être prêt. De toute façon, tout le monde pense qu'il va le rater. La note de synthèse se passe, je me dis bon, c'est pas trop mal. J'angoisse sur le nombre de pages, comme d'habitude, sur les ratures, parce que j'écrivais très mal à l'époque. Deuxième épreuve, procédure civile, bon, ça se passe pas trop mal. Et puis, troisième épreuve, spécialité, je me dis oh non, pff, non, de toute façon, j'y arriverai pas. Et en allant à l'épreuve, sur le chemin, il y avait deux filles qui discutaient. Et juste en passant, j'entends « Oh, mais moi, de toute façon, j'y arriverai pas, je continuerai pas. » Et là, je me suis dit « Mais c'est bête, en fait. T'es devant la salle, tu risques un échec. Enfin, c'est pas grave, en fait. » Et en 10 secondes, je me suis dit « Bah, je vais y aller. » Et là, je me suis installé, je me suis dit « Cette fois-ci, tu t'assois, tu bouges pas, tu réussis. » Et c'est là, et c'est ce qui a fait augmenter ma moyenne finalement, ma spécialité droit commercial qui m'a fait bondir ma moyenne des écrits. Alors à Aix, ce sont les écrits qui plombent en fait. C'est-à-dire que si on réussit l'écrit, on a beaucoup moins de chances de tomber à l'oral. Et donc ensuite, j'ai fait l'oral tranquille, enfin non, pas tranquillement, pas serein, c'est pas possible.
Mais en tout cas, ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, sauf en fiscal, ouais. Où j'avais moins bien révisé, où en fait j'avais tout mis sur le grand oral et sur l'anglais. Je me suis dit, l'anglais, c'est une note facile. Parce qu'à la fac, on ne nous apprend pas l'anglais. Donc si je baragouine deux mots, j'avais été très bien préparé par une professeure d'anglais pendant mon DJCE. Je me suis dit, ça, c'est la note facile qui va te faire remonter si tu te plantes en fiscal. Bon, fiscal, j'ai eu 10. Finalement, j'en ai jamais fait dans ma carrière après. Et ensuite, je l'ai eu. Je crois que j'étais le premier étonné, en fait, parce que ma famille m'a dit, bah, on te l'avait dit, tu as travaillé, tu as le résultat. Mais moi, j'étais étonné. J'étais là. Ensuite, je suis rentré à l'école.
À Aix ?
Marseille. Parce qu'il venait de fermer l'école d'Aix, qui était dans un magnifique hôtel particulier. Il l'avait fermé, je crois, 2 ou 3 ans auparavant. Et donc, nous, on allait à Marseille. Et Marseille, ça s'est très bien passé. On était par groupe. Moi, j'étais avec le groupe des Toulonnais, des Avignonnais. En fait, je n'étais pas avec les Aixois. Alors, ils ont peut-être fait une erreur. Mais en tout cas, j'étais avec les Toulonnais. Et là, ça a été sympathique. J'ai toujours des contacts avec plusieurs d'entre eux. Et ça a été une bonne année. Enfin, c'est 6 mois. Mais ça a été 6 mois, franchement, sympathiques où j'allais à Marseille tranquillement.
Et du coup, les stages à l'école ?
Alors, les stages à l'école, on devait commencer par le stage PPI. Et je ne trouvais pas d'entreprise, en fait. Il y en avait une qui m'intéressait. En fait, le processus a pris un peu de temps. Et je me suis dit, en fait, maintenant, réfléchis. Est-ce que tu veux être dans une entreprise ou est-ce que tu veux faire autre chose ? Et je me suis dit, je vais retourner à la fac. En M1, j'étais le premier à dire, bon, maintenant, j'ai envie de partir de la fac, je veux travailler. Et en fait, à l'école, je me suis dit, je vais retourner à la fac. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience que je n'avais pas les connaissances techniques. En fait, mon premier M2 était très bien, propriété intellectuelle, les nouvelles technologies. Mais je n'avais pas ce qui m'attirait, en fait, c'est-à-dire comprendre comment Internet, enfin, les réseaux plus généralement, marchent. Et à Aix, il y avait un M2, il y est toujours, je crois, M2 droit des télécommunications. Là, je me suis dit, je vais faire ça. Pour le fun, je vais le faire ça. Et là, il y a eu un autre déclic. J'étais avec deux professeurs, Hervé Isard et Frédéric Laurie. Et il fallait faire un mémoire. Donc, comme d'habitude, ma mauvaise volonté prend le dessus. Je me dis, oh, un mémoire. Non, non. Puis je me suis dit, mais je vais pouvoir écrire. Et là, j'ai commencé mon mémoire et je me suis dit, quel sujet je veux. Et je me suis dit, le premier sujet qui m'intéresse, ce sont les câbles sous-marins. Alors, c'est le sujet que personne ne prend.
Il faut vraiment avoir un frère ingénieur.
Alors, il n'est pas ingénieur, il est développeur web, mais c'était ça, en fait. Je me suis dit, si tu veux comprendre, il faut retourner à la source, l'infrastructure. C'est un peu comme la lampe. On peut se demander d'où vient l'électricité. Si je coupe la prise, il n'y a plus rien du tout qui marche. Si je coupe l'électricité, il n'y a plus de lampe, tout simplement. Là, je me suis dit, faudrait que je comprenne un peu comment ça marche, tout ça. Et j'ai pris les câbles sous-marins.
Ouais, mais c'est intéressant parce que tu es allé pour comprendre... t'es quand même allé dans un master de droit. Enfin, je sais pas.
C'est vrai que j'aurais pu postuler ailleurs, mais comme c'était Aix, il y avait le master, j'avais encore des amis là-bas, je me suis dit. Oh. En fait, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me suis pas posé la question. j'ai foncé là-bas.
Tu t'es dit, enfin, voilà, tu voulais approfondir un autre aspect de l'aspect IT dans le juridique.
C'est ça.
Mais est-ce que du coup, ce master a répondu à l'objectif avec lequel tu allais, c'est-à-dire de mieux comprendre la technologie derrière ?
Oui. Oui, déjà il y avait un cours d'histoire des télécommunications, donc déjà enfin des communications, donc déjà voilà tout ce qui était système de chape, Morse, les premières radios, etc., le télégraphe, donc bon ça m'a passionné. Et alors je sais pas pourquoi, tout le monde prenait des sujets passionnants et moi je me suis mis dans les caps sous-marins. Je commence mes recherches et il n'y avait pas grand-chose. Et à ce moment-là, il y avait eu l'affaire Snowden, il y avait pas longtemps. Je me suis dit mais quel est le lien entre Snowden et les caps sous-marins. Et là, j'ai pu faire mon mémoire. Je me suis dit, bah, c'est la surveillance, en fait. Si on arrive à mettre les caps sous-marins sous surveillance, ça explique Snowden, tout simplement. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'idée de départ, c'était celle-là. Et j'ai commencé à faire mon mémoire sur... alors, c'était l'influence des États-Unis sur le droit du réseau Internet. Voilà, donc, le titre, je l'ai trouvé à la dernière minute, comme d'habitude. Et ça aboutit à 90 pages. Donc, je termine mon mémoire.
Donc, pour quelqu'un qui rechignait un peu à écrire, finalement...
Finalement, c'est arrivé tout seul. Et suite au déclic de troisième année, en fait. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment t'en es arrivé là ? Je me suis aperçu qu'en fait, c'était le déclic de troisième année avec ce prof. Alors, son nom, c'était Eric Gasparini. Et voilà, qui m'avait donné envie d'en savoir plus, de lire. Et ensuite, d'écrire... petit à petit. En fait, c'est bizarre de voir à quel point une idée, une toute petite idée de départ, a des grosses conséquences derrière et où ça a guidé ma carrière et mes choix finalement. Mmh. Et ensuite, pour en revenir, j'ai terminé mon PPI et je suis allé en stage final au cabinet d'Erianic associé à Paris. Donc, je suis retourné à Paris. Et là, ça me passionnait, contre-informatique, du conseil essentiellement. Et là, ça m'a passionné. Donc, je me suis dit, bah, là, c'est terminé, on arrête de réfléchir, je veux faire ça, tout simplement. Et j'ai terminé mon stage et ensuite, je me suis dit, bah, je vais essayer de chercher une première collaboration. Je m'y suis pris tard, comme d'habitude, ça ne changera jamais. Et je commençais à chercher une collaboration, je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Enfin, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les annonces. En fait, je voulais faire mon métier, je ne voulais pas faire gratte-papier, je ne voulais pas être... collaborateur où j'exécute les ordres en fait. Ça va pas avec le statut de collaborateur, mais en pratique c'est souvent ça. C'est faites-moi le contrat. Mais par contre dans le contrat je veux telle clause et telle clause. Finalement ça invite pas beaucoup à la réflexion. Je me suis dit je vais encore réfléchir décidément. Je trouvais pas de collab qui m'intéressait. Je trouvais pas même en entreprise ça m'intéressait pas. Et là encore, mon frère m'a dit, mais de toute façon, tu dois faire quelque chose. Pourquoi t'écrirais pas ?
Mais comment est-ce que tu te sentais de... Parce que je suis en train de réfléchir. Tu viens d'une famille où t'as manifestement beaucoup de soutien intellectuel
oui.
et moral.
Oui. Ah, ça très clairement.
Et
très clairement.
Pas que, mais en tout cas, on te donne beaucoup confiance en ta capacité.
Oui.
Et t'as pas fait des milliards de stages. T'as squeezé ton PPI, tu l'as pas fait en stage, tu l'as fait en réflexion, donc en universitaire. Donc t'es pas non plus dans une position. Enfin, je veux dire, t'es spécialisé dans une matière où il n'y a pas non plus pléthore d'offres de travail.
Exactement.
Enfin, voilà. Donc, tu n'es pas non plus dans une situation où tu dis, de toute façon, le moment où je claque des doigts, je trouve quelque chose. Enfin, je veux dire, tu n'es pas dans une... mais d'un point de vue... Là, je te parle d'un sentiment extérieur. Hein, mais
non, c'est vrai. Alors...
Qu'est-ce qui te faisait pendant ce temps-là avoir cette confiance de, bah non, je ne vais pas prendre des offres qui me... Enfin, dans lesquelles je ne me retrouve pas, je vais être gratte-papier ou cette personne, elle ne m'a pas donné envie de travailler avec elle. Mm-hmm. Donc, je préfère attendre et ne pas travailler et avoir potentiellement un trou dans mon CV, un espace, voilà.
C'est ça.
Ça venait... comment tu te sentais, quoi ? Ça vient d'où, cette espèce de confiance et de capacité à...
Ben, je me sentais mal, mal entre guillemets, en tout cas mal à l'aise sur deux points. Le premier, c'est que tous mes amis trouvaient. Sauf quelques-uns avec qui je suis resté en contact, mais on se serrait un peu les coudes. Et deuxièmement, tout le monde me disait, mais avec ton CV, tu vas trouver, tu as 2 M2, tu as un DJCE, tu vas trouver. Moi, je me dis, mais enfin, je trouve pas le truc qui m'intéresse, en fait. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre mon mémoire, et je vais en faire un livre. Enfin, personne ne se pose cette question. Enfin, bah, je crois, j'avais quoi, 27, 26, 27 ans. Je me suis dit, bah, t'as toujours voulu écrire, en fait, en filigrane. Dans ma vie, j'ai toujours voulu écrire et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas le moment, en fait? Si je trouve pas, il y a peut-être une raison. Et maintenant, je vais écrire. Donc, j'ai repris mon mémoire et j'ai écrit mon livre pendant 2 ans, tout seul, chez moi, sur une chaise en métal. Donc, ça fait mal. Sur un clavier qui n'était pas à la hauteur. Je vais écrire. Ce que j'aime, c'est la recherche. Donc.
Est-ce que je peux te demander avec quoi tu vivais?
Alors, à l'époque, je pouvais vivre comme ça. Pendant un certain temps, en tout cas, je pouvais me le permettre.
Okay.
Et je me suis dit, justement, tu peux te le permettre. Tu as les ressources qu'il te faut. Donc, fais-le. Et je l'ai fait en 2 ans. Ça a pris. Alors, c'est très bizarre d'écrire un livre parce que ça a une grosse conséquence sur la carrière. Déjà, il faut expliquer à quelqu'un qui. Enfin, parfois, les recruteurs ont une vision très pratique. C'est-à-dire, mais vous écrivez un livre, mais moi, ce que je veux, c'est un contrat informatique à la fin de la journée. C'est vrai. Donc, mon livre, je l'ai fait extrêmement pratique sur la surveillance aux États-Unis. Donc, c'était tout ce qui était affaire Snowden. Et c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Je me suis dit, je ne vais pas faire une vulgarisation du droit, parce que ça, il y a des professeurs de fac qui le font très bien, qui arrivent à manier les deux. Moi, je n'ai pas leur background, je n'ai pas leur expérience. Je ne veux pas faire quelque chose de journalistique où on dit on surveille tout le monde. Donc, je vais prendre les lois une à une, de 1900 à 2015-2016 à l'époque, et je vais toutes les lire et je vais en faire un abstract. Et je veux que tout soit sourcé. C'est-à-dire que j'arrive à la fin, j'ai 2700 notes de bas de page. Donc, le livre est complètement indigeste. Il est trop compliqué. Ça, c'est un gros défaut. Il est trop compliqué. C'est pas pour du grand public. Mais j'avais envie de le faire, en fait, pour pousser la réflexion jusqu'au bout, pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et une fois, j'avais vu un reportage sur tout ce qui était béret vert. Donc, une carrière qui me...
Tout ce qui était quoi ?
Béret vert, commando marine. Et où l'instructeur disait, en fait, on va faire un voyage tous ensemble et on va pousser votre corps jusqu'à la limite. Je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose avec la réflexion. Et je suis allé, mais jusqu'au bout. Voilà, donc dans le livre, tout est sourcé. C'est épuisant. Il y a des jours où on a envie de passer l'ordinateur par la fenêtre, de casser le clavier. Mais petit à petit, on s'en rend compte du parcours effectué. Et on est content, tout en restant humble, parce que c'est trop compliqué. Je sais que il y a très peu de gens qui vont lire, mais moi j'étais content de le faire. Je me suis dit, je voulais le faire, j'ai pu le faire, et finalement je l'ai fait.
Et tu l'as fait comme tu voulais le faire.
Et je l'ai fait sans personne derrière, parce qu'à un moment je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas en thèse ? Et en fait, je voulais être totalement libre, c'est-à-dire écrire ce que je voulais. Tout simplement. Et l'éditeur, la société de législation comparée, n'a pas modifié mon livre.
Comment est-ce que tu as trouvé cet éditeur ? Tu as écrit aux éditeurs juridiques ? Tu leur as parlé de ton projet ?
Alors oui et non. En fait, il y avait une conférence au Conseil d'État qui traitait de ce sujet-là. Il y avait quelqu'un de la CNIL et il y avait le secrétaire général de la société de législation comparée, la SLC. Je suis allé le voir, je lui ai dit, bah, écoutez, je commence à écrire. Alors, j'étais à mon plan en 40 pages, donc un plan en 40 pages, c'était complètement grotesque finalement. Et je lui ai dit, voilà, je commence à écrire et je regarde pour un éditeur. Pour lui, c'était naturel, il m'a dit, bah, envoyez-moi votre manuscrit. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je lui ai envoyé 15 pages que j'avais fait... En week-end, parce que j'en étais au plan, moi. Donc, je me suis dit, je vais vite faire 15 pages. J'ai fait les 15 pages. Je lui ai envoyé. Et il a répondu, alors je crois que c'était 2 mois après. Ce qui finalement, en fait, est très court. Et entre-temps, j'avais envoyé à d'autres éditeurs juridiques qui m'avait refusé en disant « c'est trop juridique ». Donc je comprenais pas, je disais bah, « oui, je fais du juridique, j'ai une formation pour être avocat, donc je fais du juridique ». Oui, mais pourquoi les États-Unis et pas la France? Je dis, bah, je sais pas, ça m'intéresse. Enfin, les États-Unis, ça m'intéressait. Comprendre, enfin, les États-Unis, ils ont une histoire constitutionnelle qui est extrêmement riche. Ça m'attirait vraiment. Non, mais c'est pas dans notre ligne éditoriale. C'est trop compliqué. Donc, il y a deux gros éditeurs juridiques qui m'ont dit non. Et quelques jours après, le refus, j'ai la SLC qui m'envoie un mail et qui me dit « bah non, on est d'accord, on a fait ça passer, alors je sais plus si c'était un comité, et ils m'ont dit bah, « on est d'accord, donc continuez votre livre, il sera publié après parce qu'on a beaucoup de livres à publier, mais on va le faire ». Et ensuite, voilà, et ensuite c'était bon.
Et à l'issue de ces 2 ans, quand tu termines ce livre, t'as dit qu'il t'avait ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités.
Oui, alors déjà pour la rédaction du livre, j'avais rencontré quelques avocats, dont l'un qui m'avait dit d'aller à la conférence de la SLC. C'était Jérôme Desroulets, qui est avocat au barreau de Paris également. Voilà, je lui avais envoyé pour une collab comme ça. Il m'avait dit, écoutez, pour l'instant, j'ai pas de collab à vous proposer, mais votre sujet m'intéresse, donc on en parle entre futurs confrères, enfin confrères et futurs confrères, puisque moi j'étais pas encore inscrit au barreau à l'époque. Et donc il m'avait aiguillé pour l'éditeur. Et puis à la fin du livre, je me suis dit bon, maintenant faut travailler quand même. Ça fait depuis la seconde que tu penses pas trop à ta carrière, que quand tu penses tu le fais, mais finalement, il n'y a pas d'effet derrière. Et là, j'ai recommencé à chercher. J'ai trouvé ma première collab. Au bout de quelques mois, je suis parti. Et là,
Pourquoi si vite ?
Ah ben, ça, c'est finalement le pôle IP-IT qui devait s'ouvrir n'a pas été ouvert. Et donc, je me suis dit, non, moi, je ne veux pas faire ces domaines. Donc, moi, je veux faire de l'IP-IT. Donc, on va continuer comme ça. Tant pis, tu perds du temps, mais fais ce qui te plaît, parce qu'en fait, avocat, c'est un métier, si ça ne nous plaît pas, ça ne sert à rien. C'est trop épuisant, donc si on n'a pas la passion, l'envie de faire quelque chose, en fait, ça rime à rien, tout simplement. Et à la fin de cette première collaboration, j'ai mis à jour mon livre, puisqu'entre-temps, bah, les mois où j'avais passé en collab, il s'était passé plein de choses.
Putain, c'est ça qui doit être terrible quand t'écris un bouquin, c'est que...
Il faut mettre à jour.
C'est dépassé tellement vite, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et encore, j'ai eu de la chance, entre guillemets, puisqu'entre-temps, il y a eu un nouveau président aux États-Unis qui n'a pas trop bougé le régime juridique qui était déjà en place. Donc, j'ai eu un peu de chance, entre guillemets.
Et donc, je suis en train de connecter, là, en fait, tu t'es formé au droit américain, au passage.
Oui.
Genre sur le tas, quoi.
Ah, complètement.
Ouais.
Alors, j'avais des cours de common law, mais au DJCE. Mais enfin pas comme ça, c'était la rupture du contrat, la rencontre des consentements pour le contrat, mais voilà, c'était pas ça. Et effectivement, je m'étais inscrit à la bibliothèque américaine de Paris où là ils avaient tous les livres que je voulais. Tous les livres, tous les grands auteurs de droit américain, ils y étaient, et j'ai pu me former comme ça en fait. Donc voilà, et puis ensuite j'avais postulé à une offre, je me suis dit bon maintenant fais ce que tu veux faire. Et j'étais embauché, c'est toujours ma collaboration actuelle.
Qu'est-ce qui t'avait plu dans cette offre ?
Dans cette offre, c'était la technicité, la complexité des dossiers, en fait. Comme je ne voulais pas faire gras de papier, je voulais quelque chose où on me laisse réfléchir sur les dossiers, ou sans fixer la stratégie, parce que bon, c'est pas notre client, entre guillemets, ou au moins au niveau tactique, j'avais les mains libres. Et j'ai toujours eu les mains libres, en fait. Quand je vais voir mon associé, que je lui dis « Moi, je pense qu'on pourrait faire comme ça, qu'en pensez-vous ?» C'est jamais « Non ». C'est « Ben, amène-moi les arguments ». Donc, j'arrive avec mes schémas, parce que je travaille beaucoup avec des schémas. Je trouve que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, pour le client, pour nous. Et voilà, l'associé regarde le schéma et il me dit « C'est bon, fais comme tu veux ».
Et cette histoire de schéma, t'as appris à travailler comment avec les schémas ?
Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, bonne question. Je pense que j'ai un mode de fonctionnement en schéma. C'est-à-dire que, alors, on me traite souvent de paranoïaque, d'angoissé, parce qu'en fait, j'essaye d'étudier tous les scénarios. C'est-à-dire que je travaille exclusivement par branche. On me donne un scénario de départ, Je vois par exemple deux scénarios qui se détachent. Dans chaque scénario, je vois deux sous-scénarios. Et ensuite, à un moment, il faut que je m'arrête. Et c'est ce qui s'est passé dans mon livre, en fait. Une fois, on a une grande idée, on la décompose. Les sous-idées, on les redécompose petit à petit. Et à la fin, on en est à sept niveaux de plan qui sont structurés et logiques. Parce que avant, je faisais des choses pas logiques, j'avais pas de construction intellectuelle. Et le schéma, ça m'a aidé.
C'est dans le cadre du bouquin que t'as vraiment appris cette rigueur de structuration de ta pensée, ou est-ce que oui. C'est avant, avec ton frère
Alors mon frère également, parce qu'il me dit, mais Valentin, si t'es pas clair dans ta tête, les gens ils vont pas te comprendre. C'est tout bête. Tu me donnes une idée qui n'est pas structurée, on comprend rien. Si tu me dis, je vois ça. Donc il y a ça. Et je me souviens. Alors c'est rigolo, ça me rappelle une anecdote où ma première note de synthèse, je lui avais rendue. Il me dit, mais c'est décousu, t'as pas compris l'exercice. C'est décousu. Ce qu'il faut que tu fasses, tu mets des conjonctions de coordination dans tes textes. Et chaque fois que tu en mettras une, tu le souligneras. Et en fait, petit à petit, le cerveau, il apprend l'exercice. Et en rajoutant des conjonctions de coordination, tout simplement. On s'aperçoit qu'on peut enchaîner les idées petit à petit. Et que quand on enchaîne les idées sur le papier, on se dit que c'est beaucoup d'efforts. Et que si on part du schéma de départ, c'est-à-dire il y a telle idée, telle sous-idée, tac, 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 les conjonctions de coordination, elles rentrent automatiquement dans le schéma. Et on a une cause, une conséquence. Et avec plein de choses au milieu. Mmh. Mais à la fin, en fait, le schéma, il est clair et net. Et la personne comprend.
Quand au début de mes études... les quatre premières années de mes études, j'utilisais un logiciel qui s'appelle FreeMind, un truc comme ça, un truc avec un papillon qui permet de faire des branches et puis ensuite tu fais des sous-branches, mais tu peux pas les connecter. Enfin, ouais. Après tu peux pas les connecter. Tu peux pas connecter des bouts de branches avec d'autres bouts de branches.
Oui. Moi j'utilise autre chose maintenant.
Mais c'est vrai que quand je faisais ça, alors c'était un boulot monstre, mais
c'est un boulot monstre.
Mais ça m'avait vachement facilité l'apprentissage, en tout cas l'apprentissage par cœur. Je l'avais vachement utilisé aussi pour le droit de la concurrence. J'avais utilisé pour le droit civil, droit de la concurrence. J'avais dû utiliser un petit peu pour le droit administratif, mais des matières comme ça. Avec trade et ok, donc là étape 1, il faut qu'il y ait tel et tel et tel critère, et puis étape 2, ensuite il faut vérifier tel et tel et tel critère, etc. Bon, bref, donc ça me fait un petit peu penser à ça. Et donc toi, t'as vraiment appris à manipuler ça, et
alors,
et tu t'es appuyé dessus pendant tes études.
Alors sur les solutions informatiques, c'est très récent en fait, parce que j'ai tellement de papiers dans mon bureau que je peux plus faire des schémas partout dans mon bureau comme je faisais les schémas pour mon livre. Pour mon livre, c'est très simple. Je me mets sur le parquet de chez moi, je mets des feuilles partout, des livres partout, des post-it partout. C'est un peu ce film avec Russell Crowe où il joue un mathématicien. Et quand on rentre dans sa pièce, tout est scotché au mur. Et là, c'est un peu pareil, mais sur le parquet. C'est-à-dire que je mettais une idée par post-it et ensuite, je mettais chaque post-it dans un coin du studio pour pouvoir en fait construire l'idée en fait. Et à la fin, il suffit de se lever et on a toutes les idées autour de soi et on s'aperçoit qu'en fait, chaque idée est reliée. On ne le voit pas encore, mais petit à petit, on se dit, cette idée, c'est plus dans ce domaine. Donc, je mets le post-it ici et ça permet de construire. Et même si on remonte encore plus loin dans mes études, là encore, mon frère m'avait dit, n'utilise pas des traitements de texte, Microsoft, mets-toi à la tech. Alors, la tech, il faut aimer ça. En fait, c'est un logiciel qui est un peu utilisé en édition. Il y a pas mal de confrères qui l'utilisent maintenant de plus en plus, dont un de tes anciens invités, il me semble. Et
lequel?
Alors,
il nous en voudra pas.
Alors ça, je sais pas. Comme il tient son anonymat,
bon alors non.
Je vais pas faire le lien, moi.
Ah oui, non, mais si, ok. Bon, ok. Et je pense que les auditeurs feront le lien.
Voilà, et en fait, ce logiciel, ça marche pas comme ça, CTRL-I ou POMI, POMG, POMI. Ça marche pas du tout comme ça, il faut mettre des balises à chaque fois. En fait, c'est un peu de la programmation, en quelque sorte. Et là encore, ça construit la pensée, ça apprend la rigueur et ça permet de construire les idées. Parce que chaque titre doit être encadré par la bonne balise. S'il n'y a pas la bonne balise, c'est le bazar. Et le sous-titre devient un titre. Le titre d'échelon 7 devient un titre d'échelon 4. Ça devient n'importe quoi.
Ça me fait penser à cette fonction dans Word, là, où il y a une fonction titre dans Word.
Oui.
Et moi, à chaque fois que j'essaye de toucher à cette fonction, mon document commence à ressembler à n'importe quoi. J'arrive pas à utiliser cette fonction.
Alors, il faut modifier les titres et imposer au logiciel sa pensée, en fait. Moi, je l'utilise constamment parce que sinon, c'est le bazar. Et quand je dois tout renuméroter, que j'ai un contrat de 30 pages avec des centaines de clauses, si je commence à mettre juste 5 points, ma clause 6 points, mais que je change ma clause parce que j'aime bien changer mes clauses de place,
ouais, mais tu sais,
il faut tout renuméroter.
Non, mais bon, moi je suis nul dans cette
truc-là. Il y a cette numérotation et il y a ce titre. C'est-à-dire que je vais changer le titre, etc. Que le sous-titre va devenir un titre principal, etc. Et à la fin, on compile tout et on a la table des matières propre. Et là, la table des matières, elle ment pas. Si c'est pas logique, la sanction est immédiate. On s'aperçoit tout de suite que c'est pas bon, que le raisonnement n'est pas logique. Et c'est comme ça que petit à petit, qu'on apprend à se structurer. Mais c'est très dur. C'est très dur comme exercice parce qu'on violente un peu sa pensée qui, voilà, moi, mauvaise volonté par excellence au lycée, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de lire. Faut qu'on m'impose un nombre de pages par jour, sinon je ne fais rien du tout. Donc, c'est très dur à combiner, à s'imposer cette discipline. Mais ensuite, on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux, en fait. C'est juste un petit moment, un mauvais moment à passer. Un peu comme le CRFPA. Mmh. C'est ce que je dis. Souvent, les stagiaires me disent, mais c'est dur. C'est dur. J'ai dit, c'est dur. Mais quand vous voyez admis à côté de votre nom à la fin de l'année, vous oubliez complètement l'année de sacrifice, l'année, mais nul que vous avez passé avec votre code civil sur la plage, tout le monde qui vous regarde en vous demandant d'où vous sortez. Et en fait, vous oubliez tout ça, pas les peines, parce que bon, ça reste un examen quand même. Mais voilà, tous les doutes, les peurs qu'on a eues, tout est effacé en fait par juste ce mot « admis » à côté. Et en général, je les pousse à passer le CRFPA.
Et tu dis que... Donc, tu as écrit ton bouquin et puis ensuite, tu as trouvé cette première collaboration. Mmh. Tu en es parti parce que ça ne remplissait pas ses promesses. Mmh. Et cette deuxième collaboration, que tu voulais un endroit où on te laisse la main libre sur en tout cas, la capacité de faire des propositions en termes de tactique et de stratégie. Mmh. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver une collaboration comme ça?
Il y avait une offre sur Village Justice. Tout simplement.
Et il se trouve qu'en entretien, tu as senti qu'il y aurait cette marge de manœuvre.
Voilà, en fait, c'était un recruteur, donc c'était une boîte spécialisée dans le recrutement d'avocats et de juristes. Et je connaissais le cabinet, je pouvais lui citer l'un des derniers collabs qui était, ce que le cabinet avait fait, les écrits, etc. Donc il a fait passer mon CV, j'ai eu le rendez-vous avec l'associé, et là, elle m'a dit « moi, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites ». Je recrute pas des profils typiques, entre guillemets, c'est-à-dire où il y a le LLM, parce que je n'avais pas de LLM, et on me le reprochait beaucoup en entretien. Vous n'avez pas de LLM. Je me disais, mais je me suis formé au droit américain. Oui, mais vous n'avez pas le LLM. Et à chaque fois, c'était, j'avais pas le LLM. C'est toujours dans 90% des entretiens, on me reprochait de pas être parti, en fait. Et là, elle m'a dit, moi, je recrute pas de profils typiques. Ça ne m'intéresse pas. En fait, je recrute plutôt des personnalités, en fait. Si vous avez eu un accident dans votre vie, finalement, ça m'intéresse parce que vous avez appris. Et en fait, c'est votre expérience. C'est vous que je veux. Et là, j'ai senti que j'aurais, entre guillemets, les mains libres et que je pourrais réfléchir dans mon métier, ne pas juste exécuter des instructions. Voilà.
Et tu as dit que tu étais en mesure, que tu connaissais le cabinet, que tu étais en mesure de citer des derniers collaborateurs, des dernières affaires sur lesquelles ils ont travaillé, etc.
Alors, pas les affaires, parce que les affaires, je ne les connaissais pas. Mais voilà, il y avait les écrits du cabinet où je pouvais voir un peu, pas les clients, ça c'est certain. Je ne pouvais pas connaître les dossiers, c'était absolument impossible, c'est sûr et certain. Mais les appétences, en fait, les domaines, les appétences.
Et ça, tu l'as découvert en faisant des recherches, en préparant l'interview. L'interview.
L'entretien, oui.
L'entretien.
Oui.
Ok, donc c'est pas que en parallèle du fait que tu écrivais ton livre, tu te tenais aussi au courant sur la oui. place du droit et la place des cabinets, enfin.
Oui, parce que j'étais obligé. À un moment, il faut travailler, écrire, c'est bien, mais à moins d'écrire des romans grand public, voilà, qui marchent, bon, malheureusement, oui, ça, non, ça peut pas aller plus loin.
J'avais plus une référence sur comment tu faisais ta culture, en fait. Comment est-ce que tu faisais ta culture générale, plus de la pratique et moins de la recherche. Mais donc, ce que je comprends, c'est qu'en fait, pendant que t'écrivais ton livre, t'étais très sur la rédaction, la recherche, voilà. Et puis le jour où tu t'es mis à te dire, ok, maintenant faut que je bosse, il faut que tout ça, ça devienne pratique. Bon, bah là, du coup, en identifiant les cabinets qui recrutaient, tu faisais des recherches et donc tu pouvais préparer. Enfin, tu vois, tu pouvais te renseigner sur ce sur quoi ils travaillent d'un point de vue recherche et développement, sur.
Alors tout à fait. En fait, d'une part, voilà, en fait, on regarde tout simplement l'aquarium dans lequel on est. Donc, je regardais les cabinets, qui rentraient dans quel cabinet, qui sortaient. Ça, voilà, les nominations. Je crois que c'est sur le monde du droit où voilà, on peut voir un peu comment ça bouge. Et d'autre part, au niveau pratique, ça m'angoissait beaucoup. Effectivement, je me suis dit, mais tout le monde va me dire que, enfin, un livre, c'est théorique, que finalement, j'ai aucune connaissance pratique. Et ça, en fait, j'ai toujours pu enlever cette question de l'entretien parce qu'un professeur d'Aix-en-Provence, en contentieux administratif, donc c'était pas du tout la matière où j'étais à l'aise, qui me plaisait. Mais un jour, il y avait un petit brouhaha dans l'amphithéâtre. Il avait dit, alors maintenant, vous calmez parce que je vais vous apprendre quel est mon métier. Mon métier, c'est pas de vous apprendre un article par cœur. C'est complètement idiot. Je vous dis telle disposition, c'est dans tel article. Vous ouvrez votre code, en fait. C'est tout simple. Moi, mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est de vous apprendre à réfléchir par vous-même, à construire un raisonnement. Et en fait, si on applique le raisonnement que moi, j'avais développé pendant mes études et pendant la rédaction de mon livre, que je l'appliquais au niveau pratique, en fait, je savais où chercher les réponses. Donc, chaque fois qu'on me posait une question, soit je pouvais rechercher, dans ce cas-là, ça ne me posait aucun souci, soit je ne pouvais pas rechercher, et là, le cerveau, il doit aller très, très vite pour pas, justement, plomber cette question, finalement.
Oui, c'est là où le droit, c'est une méthode avant d'être un contenu.
C'est une méthode qui nous sert, en fait, dans la vie de tous les jours aussi. Quand on discute avec quelqu'un, en fait, c'est un raisonnement. C'est un peu comme les mathématiques, finalement. C'est une sorte de langage.
Quand j'étais en Argentine, je pense qu'ils ont ça dans les facs de philo, mais quand j'étais en Argentine au lycée, on avait un cours de j'ai oublié le nom de cette matière, mais c'est de la logique du langage. Et en fait, on réfléchit la langue, non pas à partir de mots, mais à partir de A plus B ou A moins B. Enfin, c'était des mathématiques, mais avec les parties de langage. Cette discipline a un nom. Je la retrouverai, je la mettrai en note d'épisode.
Ça m'intéresse, oui.
Et ça m'avait vachement intéressée. Et alors, moi, j'ai fait du latin en 5e, 4e, parce que ma mère m'avait obligée, parce qu'il fallait être dans les bonnes classes. J'ai détesté ça. Du coup, j'ai été tellement odieuse. Non, mais moi, j'ai été tellement odieuse que du coup, on m'a virée de la classe parce que j'étais trop. Voilà. Et par contre, j'en ai refait en hippocagne. Et là, j'ai compris. J'ai compris l'intérêt du truc. Et effectivement, c'est un peu comme des maths avec le langage, avec ces histoires de déclinaison et la structuration. Voilà, je fais le rapprochement entre ces deux. Donc, cette matière scientifique dont j'ai oublié le nom, mais qui est hyper utile, effectivement, et le latin, et comment ça aide à structurer sa pensée d'un point de vue linguistique, et comment ça se rapproche de la mathématique, parce qu'il faut que ce soit logique.
C'est ça.
Et pourtant, vraiment, croyez-moi, les maths et moi, ça fait vraiment 45.
Moi aussi, mais finalement, on arrive à trouver des ressemblances.
Ouais, mais c'est vrai que du coup, cette histoire de logique... Enfin, bon, après, c'est très subjectif, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les études de droit étaient si longues, parce que il me semble que le droit, avant tout, c'est surtout une histoire de logique, de structure, de méthode.
Oui.
Et puis ensuite, c'est du contenu. Il faut apprendre à aller chercher du contenu. Il faut, voilà.
C'est ça. Mais en fait, les études sont longues. Parce que si on regarde bien, moi, on m'avait jamais appris à structurer ma pensée. En fait. Sauf certains profs. Qui ont eu un impact sur moi, voilà, qui m'ont dit.
Oui, mais du coup, elles sont longues à défaut d'être efficaces, quoi.
Alors, pour moi, j'espère qu'elles ont été efficaces.
Non, mais je veux dire.
C'est vrai que ça paraît très long. Mais en fait, changer un mode de fonctionnement dans l'esprit, voilà, dans la pensée, C'est très long.
Ça doit être ça.
Et moi, si j'avais pas fait toutes ces années, enfin, même maintenant, j'ai des propos totalement décousus. Des fois, et petit à petit, des fois, je rends des choses à mon associé. Elle me dit, c'est pas logique. Je dis, mais si, c'est logique. Non, c'est pas logique. Je regarde ma copie, je dis, mais c'est pas logique du tout. Elle me dit non. Je dis, je recommence, alors il n'y a pas de souci. Et en fait, voilà, c'est petit à petit, mais c'est très long. En fait, c'est pour ça que les études, c'est dur entre guillemets. Mais c'est dur parce qu'en fait, on essaye de régler le cerveau, en fait.
Ouais. Et est-ce que maintenant que tu exerces, ça fait combien de temps que tu exerces maintenant?
Alors, en tout, ça fait 3 ans. Et là, dans l'année cabinet, ça fait 2 ans.
Ok. Est-ce que tu continues à faire de la recherche à côté?
Malheureusement, non, pas pour l'instant. Parce que c'est un métier qui prend beaucoup. Et c'est vrai que j'essaye de me tenir au courant. Mais voilà, quand je faisais mon livre, je pouvais citer n'importe quelle loi, le numéro de paragraphe. Parce que, on a beau dire qu'en Amérique, c'est beaucoup de jurisprudence. En fait, ils ont également les codes derrière. Et on s'aperçoit que notre pensée juridique en France est beaucoup plus structurée finalement. Et donc là, je pourrais reprendre en fait le droit. Je m'en suis aperçu après 2 ans d'écriture de livre. En fait, c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. On reprend tout de suite nos mécanismes. Et là, si je veux faire une mise à jour des 2 dernières mois aux États-Unis, je peux le faire en 1h30, 2 heures en fait. Ça ne me prendrait pas beaucoup de temps. Parce que je sais où chercher, je sais quel site, quel auteur je dois lire, je pourrais retrouver très facilement.
Non, mais même t'aurais pu te dire, donc j'ai bien exploré ce sujet, je mets à jour de temps en temps parce que pour pas prendre trop de retard et que mon travail reste d'actualité, mais tu pourrais aussi avoir eu envie d'initier des recherches en mode side project sur des nouveaux sujets,
c'est vrai.
Des trucs en lien avec ton cabinet, ça pourrait être une manière de faire du développement, enfin je sais pas. Mais après, je comprends aussi tout à fait que tu te dises, non, là, je me concentre sur le fait d'apprendre à être un bon praticien, ce qui est déjà une grosse marche à monter. Enfin...
C'est vrai. Et en même temps, j'avais parlé avec une consoeur dont le métier d'avocat, en fait, c'était pas sa première vie. Elle a plusieurs vies. Et je sais pas si je ferai avocat jusqu'au bout ou si, par exemple, je peux faire comme certains confrères qui font très bien, c'est-à-dire diminuer un peu la part avocat, augmenter un peu la part recherche et où ça marche très bien. Donc peut-être que je changerai plus tard, mais pour l'instant ce que j'ai me convient mais parfaitement. Donc je vais rester dans la pratique pure. J'ai déjà fait de la recherche, donc je suis déjà en fait c'est par phase. Je suis content d'avoir fait une phase. Là j'en suis à une seconde et peut-être qu'il y en aura une troisième plus tard.
Ouais.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette phase actuelle dans laquelle tu es actuellement?
Alors, bizarrement, c'est la complexité, parce que des fois, je m'arrache les cheveux sur des schémas, pas encore. Mais c'est la complexité au sens où je n'applique pas le droit. Tel article de telle loi, j'applique et je donne un cours de droit au client, en fait. Je lui fais des mentions de conformité, mais ce ne sont pas des schémas simples. Ou si, par exemple, un site web marchand, je fais des CGU, des CGV, terminé. En fait, ce sont des sujets complexes et qui poussent à la réflexion. Et ça, il y a peu de personnes qui proposent comme ça, avec des dossiers complexes où je peux réfléchir et où on me laisse la possibilité de réfléchir. Parce que des fois, c'est complexe. L'associé fixe un cap et on exécute. Et je suis pas vraiment tombé sur des confrères comme ça pendant mes stages. C'est toujours, je vous donne le dossier. Vous réfléchissez, on en parle après. Hein. Bonne chance. Et c'est une méthode que j'applique maintenant avec les stagiaires. Je leur dis, en fait, il y a 2 méthodes. La première où je t'explique ce qu'il faut faire dans le dossier. Si je suis en urgence, qu'il me faut un backup rapide, je vais utiliser cette méthode. Mais l'autre méthode, ça va être très simple. Je te donne le dossier, je donne quelques indications et tu réfléchis. Et tu vas te planter. Parce que c'est un peu l'objectif, c'est que tu te plantes. Déjà parce qu'on n'est pas habitué à l'échec. On ne nous apprend pas à gérer l'échec. Or, un échec, ça se gère. Il faut voir les conséquences, il faut apprendre. Et on le prend très mal. Moi, mon premier échec, ça a été mon permis de conduire. J'avais toujours été extrêmement protégé. Là, je rate l'échec. Je rate mon permis, quelques fois, pour rester dans le vague. Alors j'ai pas mal vécu, mais ça m'a horriblement vexé. Je me suis dit, quoi? Et donc, aux stagiaires, je leur dis, tu vas te planter sur le dossier, c'est normal. Un, ça va te dédramatiser. Et deux, tu vas voir que tu vas réfléchir beaucoup plus sereinement sur les autres dossiers. On a le temps. Moi, bon, on m'a fixé un délai de 15 jours. Donc, je te laisse 3-4 jours. C'est pas pour t'embêter. Mais tu vas apprendre à travailler dans les délais, à échouer sur ce dossier. Et ensuite, je récupère, je t'explique, tu refais le dossier normalement. Et ensuite, c'est bon. Et je pense que c'est. Enfin, alors, c'est pas la méthode d'apprentissage ultime, mais ça marche bien en fait.
Non, mais en fait, c'est à long terme, c'est bien parce que du coup, tu formes des personnes. Enfin, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être plus ou moins guidés et tout. Bon, on en revient toujours à ça, mais c'est sûr que du coup, t'en fais des personnes qui testent, qui réessayent, tu vois, qui butent, qui réessayent et
C'est
tout.
ce que j'essaye.
Mais c'est vrai que ça, enfin, du coup, mais ça se reflète aussi dans toi, les délais dont tu disposes.
Ah oui, si j'ai
C'est-à-dire que
2 heures pour le faire.
c'est une méthode de travail qui peut fonctionner quand un cabinet, mais là c'est des histoires de politique managériale, de rapport aux clients, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette équation, mais c'est quelque chose qui est possible quand il y a du temps pour travailler, enfin il y a du temps qui est laissé pour le travail et pour un travail. Pour un travail qui rend possible le test and learn, quoi. Et ça, ça veut dire que tu es dans une équipe qui part du principe qu'il y a du temps long pour le travail et
Pas
que.
forcément, en fait, c'est la difficulté de l'exercice. Il y a
Ok.
deux difficultés dans cette méthode. La première, c'est que cette méthode ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnalités avec qui ça ne va pas, où il faut guider la personne. Et ça, quand c'est le cas, ça, il faut guider la personne. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas imposer ma méthode parce que j'estime qu'elle est bonne. Ça servira à rien. Ça serait complètement ridicule. Donc, il faut d'abord un peu voir estimer la personne, comment elle travaille, et ensuite essayer de la guider, etc. Et si je vois que la méthode plante-toi et on rattrape tout après marche, on y va. Mais par contre, c'est jamais imposé. Je ne vais pas imposer ça à un stagiaire. Moi, on me l'a jamais imposé, je ne l'imposerai pas. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est la gestion des délais. Et là, il faut essayer de combiner cet exercice avec les délais dont on dispose.
Et donc,
Et
comment
ça,
tu
c'est
fais?
très difficile.
Ben ouais, mais c'est
C'est
là, ça
très
m'intéresse,
difficile.
comment tu fais?
C'est très difficile. Alors, il faut poser des deadlines assez clairs, en disant, voilà, tu as 2 heures pour le faire, parce que moi, j'en ai que 4. Bon, quand le délai se compte en jours, je dis, alors là, il faut faire ça. Tu vas aller chercher dans tel JCP. Il y a tel auteur, il y a tel confrère qui a écrit là-dessus. Tu regardes l'article, tu prends les JP et on travaille sur les JP. Voilà. Si on a un peu plus de temps, par exemple 4-5 jours, il y a des dossiers où on peut le faire. Gère le dossier et on se reparle dans quelques jours.
Ouais. Et comment est-ce que tu, quand c'est des délais, je trouve ça hyper intéressant comme question. Comment est-ce que tu, enfin, pas que je me m'auto-congratule pour ma question, mais le sujet m'intéresse. Comment est-ce que tu, parce que buter sur un truc, enfin moi je me souviens, mais c'est extrêmement personnel, mais buter sur un truc et on te dit bah non, tu l'as pas bien fait et on te reprend le truc et on refait tout pour toi. C'est
Ça
humiliant,
marche pas,
c'est
c'est
l'enfer,
non.
du coup t'es complètement dépossédé de ton travail, enfin
Ouais.
et de la possibilité d'apprendre et de faire mieux et tout. Et d'un autre côté, quand t'es dans des délais courts et que du coup pour rattraper le délire, en fait y a plus beaucoup de temps.
Non.
Comment est-ce que tu fais? Du coup, donc il y a eu la personne n'est pas allée dans la bonne direction, il faut que tu reprennes. Mais il faut que tu arrives à reprendre avec elle dans le petit temps qui t'a imparti, de façon à ce qu'elle
Ah,
reste, tu vois, à
c'est
ce qu'elle ait
difficile.
encore la chance d'avoir un deuxième G, enfin, tu vois, une deuxième où tu
Ouais.
puisses voir, enfin, je.
Oui, apprendre rapidement pour gérer le délai.
Bah, que ce soit pas juste, bon, tu t'es planté, je reprends, ciao, et puis on verra au prochain dossier, quoi. Parce que ça, en fait,
Non, ça jamais,
c'est.
ça sert à rien,
Ouais.
ça. Non, 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 si c'est pour que le stagiaire se plante, que je récupère le dossier, que je corrige. Enfin, ça sert à rien. Lui, moi, j'ai pas la base que je voulais. Lui, il a pas appris. Donc, ça sert strictement à rien. En fait, quand je dis il faut qu'il se plante, c'est qu'ensuite je dis voilà, en fait, tu vois, là, tu vas chercher la solution de ce côté. Regarde là, argumente mieux, va jusqu'au bout. mets des virgules aussi, la ponctuation, c'est plutôt important quand même. Et ça, il faut voir avec la personnalité de la personne. Faut pas braquer, que ce soit les collabs juniors ou les stagiaires, en fait. Voilà, faut y aller petit à petit. Et c'est toute la difficulté de trouver l'équilibre entre les délais, parce que nous, on est extrêmement stressés. Moi, je suis quelqu'un, mais d'extrêmement angoissé. Ça me permet de voir des solutions à des dossiers parce que je vais dans tous les sens et ensuite je fais mes schémas, mais c'est très stressant. Et donc, il faut gérer cette part de stress, le délai, le travail du junior ou du stagiaire. Et c'est un exercice, mais extrêmement compliqué. Mmh. C'est extrêmement compliqué et je pense que je me loupe souvent.
Oui, non, mais c'est marrant parce que j'ai fait faire à ma stagiaire un truc un peu chiant et rébarbatif avec un logiciel. Mmh. Et elle s'est plantée une première fois, elle s'est plantée une deuxième fois. Mmh. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bon, allez, viens, et puis on va le faire ensemble, ouais. Tu vois. Et j'avais cette espèce de tentation de dire, bon, en fait, je vais juste le faire.
Mais ça arrive des fois quand il y a les délais. Donc,
bah ouais, c'est clair.
Je rattrape tout, donne-moi ce que t'as fait.
Ouais, ouais.
Mais
et puis ensuite, ouais, et puis non, on s'est juste posé là sur le sur le canapé.
Non,
et
c'est
on
difficile.
On a refait un schéma ensemble et tout. Bon, bref. Non, mais c'est sûr que c'est.
C'est difficile. Ensuite, moi, j'ai toujours eu des maîtres de stage qui m'ont, que ce soit chez Frédéric Benec ou Derenic Associés, ça n'a jamais été. C'est nul. Recommencer tout. J'ai toujours été bon, Valentin, vous mettez à côté de moi et on va le faire ensemble. Vous allez voir comment moi je travaille. Ouais. Et je me souviens, c'était François Perlani chez Derenic Associés qui me dit Valentin, vous avez déjà fait tel document ? Je dis non. Il me dit vous prenez votre chaise, vous asseyez à côté de moi et je vais vous montrer comment on fait. Et c'est bizarre, mais on a toujours le mythe de l'associé un peu inaccessible. Et là, les associés étaient accessibles. Voilà, je m'asseyais à côté, ils me montraient. Il me dit, voilà, j'en ai une deuxième à faire. Bah, la deuxième, elle est pour vous. Bonne chance. Mmh. À dans 2 heures. Donc là, on a le stress qui monte quand même.
Et là, t'as pas pris toutes les notes et tout.
Sous mes notes, j'ai mal écrit. Mais c'est comme ça qu'on essaye d'arriver petit à petit.
Bon, en tout cas, je pense que ces efforts managériaux sont reconnus, puisque c'est donc un stagiaire, un de tes stagiaires qui t'a recommandé pour le podcast, donc manifestement.
Alors pourtant, c'est assez rigolo, parce que pour une fois, il avait dit quelque chose de rigolo, et je me suis dit, je vais en chérir. Tu t'assois, tu prends un stylo et ton bloc-notes, tu vas me faire une recherche. Et là, ça a été atroce parce qu'il s'est senti mal. J'ai eu un peu honte de ma blague. Je lui ai dit, tu vas faire une recherche sur la notion de substance en droit civil dans la région des Pyrénées au 17e. Et là, il commence à écrire. Il s'arrête. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, voilà. Je dis, non, c'est pas vrai. Mais la prochaine fois, c'est la recherche qui tombe. Et c'est comme ça. Mais bon, c'est pour rire. C'est vraiment une blague entre nous. Mais je crois qu'il m'en veut encore pour cette recherche. Secrètement, je suis sûr qu'il m'en veut encore.
Mais parce que du coup, tu lui as quand même fait faire.
Non.
Ah.
Non, je me suis arrêté quand
tu
il dit
tu t'es arrêté
pas vrai.
Au titre et où t'as dit.
Non, ça j'aurais jamais. Non, ça aurait été une blague de mauvais goût. Alors j'hésitais avec la domanialité, les antennes relais, mais je l'ai fait à un autre stagiaire. Mais non, ça c'est vraiment pour rigoler.
Et du coup, domanialité et antennes relais, l'autre stagiaire, il est allé au bout de la recherche ou pas?
Non, en général, il bloque. Ils ont okay. Le cerveau qui bloque, comme moi quand on me dit quelque chose que je suis un bon. Quoi?
Ok.
Et là, j'arrête tout de suite.
C'est bien, c'est des stagiaires qui osent bloquer, parce que il y en a qui oseraient pas dire, mais en fait, ça a l'air chelou ce truc.
Oui, ou je vais commencer à la faire, mais j'arrive pas, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ouais. Non, ce sont les petits moments rigolants entre nous, ça.
Et comment est-ce que, enfin, t'as un petit peu répondu, mais comment est-ce que tu te projettes là dans les années qui viennent? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu as mal travaillé?
C'est la question qui m'a toujours tétanisée. Mais toujours, quand on me la pose au collège, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Les voisins en vacances qui me disent, tu veux faire quel métier? Ça m'a toujours tétanisée. J'arrive pas à me projeter à 10 ans. Maintenant plus, c'est vrai. Mais c'est une question qui, en fait...
T'es pas obligé de me dire à 10 ans.
Non, mais même à 5 ans, en fait. En fait, je suis et je gère pas au jour le jour. Ça, non, mais voilà, 1 an. 2 ans.
Et donc, comment est-ce que je te projette à 1 ou 2 ans?
Pour l'instant, continuer comme ça. En fait, continuer dans ce mode de fonctionnement. Parce que c'est un mode de fonctionnement qui use beaucoup, parce qu'on est toujours dans l'action, dans l'adrénaline. Mais c'est quelque chose bizarrement, je pourrais pas vivre avec. Une fois, mon associé me donne quelque chose à faire et je dis, ah, moi, je vais partir dans l'administration, ça sera peut-être plus cool. Ce qui est complètement faux, bien sûr, mais c'était juste pour titiller. Et elle m'a dit, mais Valentin, tu vas t'ennuyer. Toi, ce qu'il te faut, c'est de l'action, c'est de l'adrénaline, des délais serrés, des questions complexes. Et là, je me suis arrêté, j'ai encore bloqué des cinémas. Ah, mais oui, c'est vrai.
Et comment est-ce que tu te reposes?
Hein, bonne question. Bonne question. Alors, je pense toujours au dossier. Ça, c'est inhérent. Mais plus je parle aux confrères et aux consoeurs, et plus je m'aperçois que c'est un peu le cas pour tout le monde. On est vraiment là-dedans.
Je te rassure, je pense que c'est pas le cas que des avocats. Enfin, en
Non.
tout cas, moi, je pense toujours à ce que je fais aussi.
Oui, non, mais chez les avocats, c'est. Enfin, je remarque, je sais pas trop dans les autres métiers. J'ai jamais fait d'autres métiers, mais. En tout cas, avec ceux avec qui j'ai discuté, on a le point commun, c'est qu'on a toujours le dossier dans la tête. On est aux Tuileries tranquillement, on regarde un arbre et d'un coup, tel dossier. C'était quoi déjà, date de conclusion? Ah, et ça, c'est stressant. Alors, pour me reposer, moi, c'est très simple. Déjà, il y a un peu l'histoire, les anciennes civilisations. Donc, je passe beaucoup de week-ends au Louvre. Avec la carte des amis du Louvre, je peux aller où je veux. Donc, ça, c'est vraiment reposant, en fait, de voir tout se passer, etc. De voir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le département, tout ce qui est Mésopotamie. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait, comme sont les premières cités bien organisées, je veux dire, vraiment une organisation sociétale, ça m'intéresse. Voilà. Et puis, les peintres français, bon, tout ce qui est Corot. Et par exemple, tout ce qui est école du Nord, donc les Hollandais, voilà, en fait, c'est très reposant. Et quand on est au Louvre, il y a cette sorte de sensation, en fait, où le temps n'existe plus. On est devant un tableau, et en fait, le temps ne passe plus. Il n'y a plus aucun souci, il n'y a plus rien, on est devant le tableau. Et cette expérience, je l'ai faite également au musée d'Orsay. Avec la carte, en fait, on peut rentrer une demi-heure plus tôt. Donc, normalement, le musée ouvre à 9h30 et avec la carte, on peut rentrer à 9h.
C'est génial.
Et pendant une demi-heure,
T'es tout seul ou presque avec.
n'y a même pas de gardien, en fait. Il y a les gardiens qui passent, qui regardent ce qu'on fait, forcément. Mais on se met devant les tableaux de Sisley. On s'assoit sur les bancs et il n'y a personne.
Et ça, tu le fais souvent?
Pas un bruit. Ben, j'essaye, mais seulement il faut se lever. Et ça, j'ai de plus en plus de mal à me lever tôt pour aller au musée, mais ouais, je me souviens d'une fois où voilà, je me suis mis devant le tableau pendant une demi-heure, j'ai rien fait. En fait, j'étais dans le tableau avec les personnages et c'était mes terminés. Et là, ça permet de, en une demi-heure, on a gagné mes 3 semaines de vacances. Enfin, non, pas autant quand même, mais quelques heures bien méritées. Et ensuite, bon, j'ai d'autres passions, bien sûr. Il y a la BD. Donc, moi, j'ai plus de place chez moi, mais j'aime beaucoup acheter des BD, des séries où voilà, on est avec les personnages, on est dans un autre monde, en fait, tout simplement. Et la troisième passion qui me dévore, ce sont les jeux vidéo. Ça m'avait coûté le bac français, ça, on s'en
Tu
souvient.
joues à quoi?
Mais alors, moi, les jeux de tir, ça m'attire pas des masses, en fait. Ça me stresse plus qu'autre chose. Pourtant, j'y ai joué avec mon frère, avec ma première console, une Xbox en décembre 2002. Je m'en souviens très bien.
Donc tu joues à quoi?
Oh, c'était des jeux de tir, je me souviens plus. Il y avait
Non, mais
Halo.
maintenant.
Ah, maintenant. Alors maintenant, c'est la stratégie. C'est-à-dire que tout ce qui. Alors, il y a la stratégie et la gestion. Il y a tout ce qui est construction de ville. Ça repose de construire des routes le week-end, en fait.
J'aimais bien jouer à Age of Empires quand j'étais
Ah
au
bah,
lycée.
ça a été
Mais
un
je
de
trouve
mes
que
premiers jeux vidéo.
l'ordinateur gagne toujours, c'est frustrant. Il y a une espèce, il y a un décalage des forces, il y a
C'est
une
très
injustice
frustrant.
dans
Ouais.
l'algorithme.
Mais c'est moins dur l'ordinateur que le multijoueur parce que
Ah ouais,
moi
non,
le
mais moi j'ai
multijoueur,
jamais été une geek à ce point-là, hein.
Ah non, une fois j'ai gagné, mais je sais pas trop comment.
Donc tu construis des villes?
Ouais, construction de villes, des jeux historiques, construire des villes dans l'Antiquité, voilà, César III, j'y ai passé des heures. Et ensuite, bon, comme j'aime beaucoup l'histoire, particulièrement la Seconde Guerre mondiale, je sais pas trop pourquoi, peut-être pour des motifs familiaux, sans doute, mais voilà, j'essaye toujours d'en apprendre de plus sur la Seconde Guerre mondiale, et il y a des jeux qui permettent de. Il y a un jeu, là, j'ai passé 300 heures en un an, je crois.
C'est lequel?
Ah non, mais j'ai un accent anglais horrible.
Mais c'est pas grave.
C'est Hearts of Iron 4.
Hearts of Iron 4.
Voilà. Alors moi, c'est. Et là, on rentre dans le jeu, c'est-à-dire qu'on choisit un pays, on construit les usines et on lance les chaînes de production. Mais on n'a pas des usines de manière infinie, donc il faut réfléchir à ce qu'on veut produire, etc., comment on veut conquérir, essayer de perdre le moins d'hommes quand même. C'est un peu... ouais, c'est un début, en tout cas, pour moi. Et voilà, dans ce jeu, on est complètement ailleurs et on est dans son monde. Et des fois, je téléphone à ma famille, je dis « Ah, je viens de conquérir l'Italie. » C'était dur en Éthiopie, j'ai envoyé la 4e division d'infanterie légère. Et là, on me dit « Quoi ?» Désolé. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se reposer petit à petit.
Bon, donc tu déconnectes pas mal quand même.
J'essaye. J'y arrive. Je pense que j'y arrive pas. Mais ouais, non, j'essaye.
Et quelle est ta dernière joie ?
Ma dernière joie ? J'ai envie de dire qu'en fait, j'ai pas eu beaucoup de peine. Donc.
Mais c'est pas la même chose de pas avoir beaucoup de peine et d'avoir beaucoup de joie.
Oui, mais en fait, j'ai eu plus de joie et peu de peine. Donc, la dernière joie, bonne question, parce que je pense à plusieurs souvenirs. Je pense que c'était mon dernier voyage en Normandie, où on se met sur les plages. Il faisait un temps, mais de chien.
C'était quand ça ?
Ah, c'était décembre. C'était décembre et il pleuvait, il ventait. C'était pas du tout la carte postale. Et j'étais sur la plage, une des plages du débarquement d'ailleurs, Utah Beach. Et là, voilà, c'était tranquille en fait. C'est bizarre. Il n'y avait pas du tout le côté carte postale, c'était vide. Il faisait froid, il y avait du vent. Et moi, ça m'a plu en fait. C'était ça.
T'es allé boire un chocolat chaud après ?
Non. Non, moi, ça me suffisait. Moi, je. Non, mais le. Non, mais
je
le
comprends
froid,
pas qu'on puisse s'exposer au froid et non, ne pas en fait, gérer parce que de
c'est
boisson.
Une question, c'est une question d'ambiance, d'atmosphère, en fait. Il n'y avait personne, il y avait la mer et la mer me suffisait, en fait. En fait, quand on regarde l'horizon de la mer, ça repose encore plus que le musée et les jeux vidéo. On est devant la mer et on ne pense plus à rien, en fait. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ?
Beaucoup de doutes et d'angoisse, je crois. Je crois que c'est beaucoup d'angoisse et beaucoup d'amis qui aident en fait, qui aident à tenir.
Ah, c'est beau ça de le dire.
Ouais, je pense que c'est important de reconnaître ça. En fait, je pense pas qu'on pourrait tenir si on n'avait pas des consoeurs, des confrères qui, dès qu'on a une question, on appelle. C'est jamais, ouais, tu me déranges, je suis avec un client, c'est quoi ta question ? Attends, je suis en rendez-vous client, je quitte la salle de réunion et je te réponds. Voilà. Et ça, bizarrement, ça, c'est important, voilà, de parler toujours avec ceux qu'on a connus. Oui, je crois que c'est un tout, en fait.
Les doutes, les angoisses et les amis. C'est joli.
Oui, ben ouais, je crois que c'est ça. Alors, de l'espoir aussi, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais, et puis, surtout, la conviction de, je pense qu'on fait un beau métier. Et cette conviction du beau métier, je l'avais appris en rentrant à l'école d'avocat. Parce que moi, j'étais pas du tout pénal, donc les grands confrères qui plaident super bien, qui sont charismatiques, je pense à Eric Morin, Christian Saint-Palais. Donc, voilà, c'est l'avocat qui est là. Et on les voit et voilà.
Et tu
c'est un avocat.
Et tu te reconnaissais pas là-dedans ? Si.
Pardon,
j'ai mal compris ton propos. Ça y est, je comprends ton
propos.
En voyant des avocats comme ça, tu as
ça
vu.
Ça inspire, en fait.
Tu as été inspiré et tu as été capté par le beau métier que tu rejoignais.
Oui, okay. Alors là, j'ai une vraie histoire. Avant de rentrer à l'école, on devait faire un stage de déontologie. Un mois chez un avocat local, entre guillemets. Et j'avais été chez une avocate et elle m'a dit « Valentin, vous avez un profil conseil. » Est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'un avocat ? Je ne m'étais jamais posé la question, mais merci. Et elle m'a dit, vous savez, que vous fassiez du pénal ou du contentieux, enfin du conseil, du contrat informatique, en fait, c'est la même force qui doit vous animer. Et vous savez comment je l'ai eu, moi ? Je dis, bah non. Elle me dit, j'étais aux assises. Je dis, ça ne me concerne pas, moi, ça, en fait. Elle m'a dit, je vais vous expliquer, j'étais aux assises. Et je défendais quelqu'un qui, dans l'esprit des gens, ne pouvait pas être défendu, en fait. En fait, c'était la personne qui avait fait des choses horribles. Et pour l'opinion, en fait, il ne méritait pas d'être défendu par quelqu'un. Et elle me dit, mon client était derrière moi. Et tout le monde le regardait, mais avec des yeux de haine, parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Et moi, j'étais là, entre les deux. Et personne ne me regardait, en fait. Toute cette haine, elle était derrière moi, sur mon client. Elle m'a dit, et là où vous comprenez votre métier, c'est quand le président dit, maître, vous avez la parole, que vous mettez votre main sur la barre, que vous vous levez, et que d'un coup, tous les yeux de haine qui étaient sur votre client, bah maintenant, ils sont sur vous. Et là, vous avez compris pourquoi il fallait une défense, en fait. Parce que maintenant, vous n'avez rien fait, vous défendez juste un homme, juste pour qu'une justice raisonnée soit rendue. Et là, d'un coup, vous avez tous ces yeux de haine qui vous regardent. Et s'ils pouvaient vous tuer, ils le feraient, en fait. Il dit, et là, vous comprenez que vous êtes un véritable rempart, que vous défendez quelqu'un. Vous défendez pas, le crime, mais vous défendez un homme et vous essayez de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Elle dit, et ça, vous devez l'avoir, que vous fassiez du pénal ou de l'informatique, vous devez comprendre pourquoi vous faites votre métier. Et moi, alors ça ferait rigoler des confrères pénalistes peut-être, mais c'est bizarre parce que quand un entrepreneur vient vous voir, des fois ce sont ses économies qu'il investit, ce sont ses espoirs, il a un projet qui mûrit. En fait, il a des espoirs et là vous dites, je vais défendre un peu sa vision, ses espoirs, et vous êtes à côté de lui. Et là, en fait, le point commun entre le conseil, tout ce qui est informatique et pénal, en fait, c'est que vous êtes à côté de votre client. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas beaucoup à l'école, malheureusement. Moi, ce qui m'a le plus manqué à l'école des avocats, c'est un cours d'histoire des avocats, en fait. Tout simplement, moi, j'ai découvert que le patron des avocats, c'était Saint-Yves, parce que les bâtonniers du Grand Ouest font une grande fête à la Saint-Yves. Bon, pas cette année malheureusement, mais ils font une grande fête. Et en fait, tous les us et coutumes, on est quand même un ordre, tous les us et coutumes, on ne nous en apprend pas beaucoup. Et c'est ce qui était intéressant à l'école, en fait, c'était pas quand on nous disait faites une assignation, c'était quand on nous disait il faut que je vous en raconte une bonne, ce qui m'a arrivé en audience la semaine dernière. Avec le magistrat, c'est pas passé du tout. Et en fait, on apprend petit à petit, les us et coutumes, parce que bon, moi, je fais quelques audiences, mais parfois de procédure. Mais c'est quelque chose qui manque grandement dans la formation des avocats, c'est l'histoire de l'ordre, en fait. Pourquoi on est là? Les grands procès, les grandes figures de l'ordre. Par exemple, la première femme à avoir prêté serment, on ne l'apprend pas. Si moi je vais pas sur Wikipédia, s'il n'y a pas un confrère qui m'apprend, en fait, voilà. Et c'est ce qui manque. Vraiment, c'est ce qui manque dans la formation des avocats, c'est l'histoire des avocats, tout simplement.
Et en tout cas, c'est ce qui donne du sens à ton travail.
Et en fait, on trouve du sens au travail. La conviction que les confrères pénalistes ont, en conseil, moi j'essaye de l'avoir.
Merci beaucoup, Valentin.
Merci à toi, en tout cas, c'était un plaisir.